Voilà une série d'extraits qui va, je suppose, hein, donner encore quelques regrets de plus aux gens qui n'ont pas pu rentrer pour voir l'opéra de Katsu. Alors, je vais conduire la soirée comme suit. Je vais d'abord donner la parole à Marie-Yvonne Saison et à Georges Banu pour quelques minutes. Et puis ensuite, je m'entretiendrai avec les témoins et les acteurs qui ont bien voulu participer à cette table, donc Gilles Anquetil et Charles Chemin, que je présenterai au moment où je parlerai avec eux de leur connaissance du travail de Wilson, de l'intérieur et de l'extérieur aussi, le plus souvent. Alors, Marie-Yvonne, on va commencer par vous. Marie-Yvonne est professeure émérite de philosophie à l'université Paris-Ouest, Nanterre-la-Défense, depuis octobre 2008. Elle est l'auteur d'ouvrages et d'articles nombreux sur le théâtre. Elle a, pendant les années 68 à 70, dans le cadre de ses recherches, assisté et participé à des séances de travail théâtral menées par le metteur en scène Jacques Guimet à l'hôpital Sainte-Anne. Et cette implication, d'ailleurs, lui a valu d'être nommée au CNRS en 70 dans l'équipe de recherche théâtrale. Elle y est restée d'ailleurs jusqu'en 81 avant de choisir d'enseigner à l'université de Nanterre. Et c'est aussi par l'intermédiaire de Jacques Guimet que dans les années 70, toujours et constamment parallèlement à son travail de chercheuse, elle a fréquenté assez régulièrement les Bernardins, dont elle va nous parler plus précisément, qui était un lieu d'expérimentation des Wilsoniens de Paris, qui s'étaient fédérés en un groupe, le groupe Leïla, et elle a notamment participé à une représentation, Leïla 2, forcément vous êtes rencontrés, ça va vous rappeler des souvenirs, le groupe Leïla donc, qui avait conçu une représentation en juin 73, Leïla 2, à laquelle Marie-Yvonne Saison a participé, donc elle connaît à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, et son intervention s'appuie sur cette expérience. On lui a demandé un petit peu de repartir dans le passé, de retrouver des notes enfouies, et elle s'intitule cette intervention « Solitudes en partage ».
Merci Sabine. Eh bien, je vais essayer, pour respecter les quelques minutes qui me sont accordées, de ne pas trop m'éloigner d'un texte qui me donne un cadre. Alors, si on revient en arrière, le regard du sourd a été reçu avec un intérêt tout particulier dans les milieux de théâtre français, milieux qui étaient attentifs aux révolutions artistiques américaines. Wilson semblait aborder la création théâtrale en artiste. Il ignorait les traditions et l'histoire de la mise en scène. À partir de ce choc, je crois que c'était un véritable choc, et à travers une relation plus ou moins directe à Bob Wilson, des pratiques s'inspirant de sa manière de faire et mettant en œuvre une nouvelle conception de la fonction acteur se sont développées à Paris dans les années 70. La continuité entre des pratiques d'atelier et la préparation des spectacles indiquait à quel point Wilson concevait le travail de création d'une manière qui lui était propre. Le metteur en scène artiste développait un travail collectif qui se nourrissait de toutes les différences et réunissait des personnes avec lesquelles s'élaboraient certains spectacles sans préjuger de leur participation à d'éventuelles représentations. La Bird of Man School of Birds, installée dès 1968, est caractéristique de cette démarche et témoigne des débuts de la création wilsonienne. Cette école, avec l'esprit qui l'anime, en raison de sa composition et du mode de vie des participants, a très vite essaimé à travers le monde. On retrouvait ainsi à Paris des Birds qui s'entraînaient régulièrement dans des ateliers informels très ouverts, à l'occasion rejoints par Bob Wilson lui-même. Ma contribution est liée, donc, comme le disait Sabine, à la fréquentation en 1973 de l'atelier Laïla et à la participation occasionnelle à certaines activités qui lui étaient rattachées. Elle s'est élaborée aussi, bien sûr, à partir d'une fidélité de spectatrice à Wilson et d'une réflexion assidue de philosophe sur le théâtre. Donc, après la représentation de Ouverture à Cow Mountain en novembre 1972, un certain nombre de birds français ou de passage à Paris ont poursuivi leur travail dans une salle de la rue des Bernardins. À l'image de l'école new-yorkaise, ce groupe, baptisé Laïla, était un groupe ouvert qui accueillait les participants de manière informelle. En dehors d'un noyau plus ou moins régulier, il était constitué de personnes diverses qui venaient s'entraîner selon leur disponibilité.
aucune direction n'était revendiquée ou visible. Quelques représentations ont été organisées, privées ou publiques, souvent dans le même lieu. Elles étaient structurées par des membres du noyau, dont Serge Duché et Farid Rabia, plus connu sous le nom de Farid Chopel. Bob Wilson n'a fait que des apparitions ponctuelles au Bernardin. Il est venu notamment lors d'un stage d'un week-end, mais la façon de procéder du groupe Laila était directement liée à sa personne et inspirée de sa manière de travailler. Relayé par des birds fidèles comme John D'Arcangelo, Andy DeGroote ou Serge Duché, il était toujours présent dans l'esprit des participants. Les ateliers des Bernardins étaient, en dehors des spectacles, un lieu où l'on dansait, en continu, ensemble, mais chacun pour soi, à partir du mouvement de spinning que vous avez pu revoir ce matin. Ce qui frappait d'abord, c'était l'impression de prendre part à une activité exercée en continu, sans point de départ ni point d'arrivée, et sans leader ni consigne explicite. Tout arrivant se mettait d'emblée à danser, se fondait dans une chorégraphie apparemment harmonieuse, même si elle n'était constituée que de parcours individuels, indépendant. L'individu devenait simple élément d'un ensemble dès qu'il trouvait sa place dans cet univers, univers nouveau, dont les a priori spatio-temporels, constitutifs de la perception, ce que disait un intervenant tout à l'heure, s'accordaient à un véritable changement d'échelle. On évoluait en évitant contact ou heure et sans conscience du temps. On s'inscrivait dans un espace-temps élargi aux dimensions du cosmos, affranchi des limites terrestres. L'attrait de cette danse ininterrompue et libre était renforcé par le sentiment de prise en charge et de fusion dans un groupe porteur de valeurs et de caractéristiques étrangères à celles de la vie extérieure. Prendre part à cet entraînement, c'était donc participer à un rituel de libération, attendre d'un exercice pratiqué en commun l'opportunité d'un épanouissement personnel. L'aspect collectif de l'entraînement ne suscitait en effet aucun rapprochement entre les individus, aucun échange physique ni verbal. Et cet atelier de danse développait ce que Wilson déclare attendre d'un bon acteur, qu'il joue pour lui, je cite, dans un style de jeu indifférent aux autres, chacun évoluant dans son espace et suivant sa propre ligne de son et de mouvement. Ce qui permettait d'associer intimement l'aspect collectif et l'absence d'échange entre les individus, c'était bien le mouvement de tournoiement, de rotation sur soi, soutenu par l'audition en boucle d'une musique répétitive. Le spinning s'inscrivait dans un mouvement commun, mais se pratiquait, comme le dit très bien Frédéric Morin, à une allure et avec des variantes singulières. Et il générait de réels déplacements. Lors de son apparition en 1969, ce mouvement témoignait de la proximité de Wilson avec les milieux avant-gardistes de la danse. Au Bernardin, c'est Andy DeGroote qui en assura la transmission et le développement. Le spinning a été décrit du point de vue du spectateur. On trouve peu de précisions sur son effet sur les danseurs ou sur la raison de son adoption depuis les années 70, à la fois dans de très nombreux spectacles et comme technique de travail d'acteur. L'effet en sa manifestation corporelle est pourtant intéressant. Après une période de déséquilibre et de vertige, le danseur acquiert un nouvel équilibre qui lui donne une aisance et une légèreté dont il ne se savait pas capable. Il devient maître de ses déplacements et de ses mouvements comme il ne l'avait jamais été. Et il développe une agilité inattendue qui lui permet, dans les limites de ses possibilités corporelles propres, de réaliser quasiment des exploits. Le recours au spinning peut ainsi être vécu comme une drogue qui fait échapper le temps de sa pratique aux limites de la corporéité et aux lois de l'existence quotidienne. Mais s'il était indéniablement vécu positivement, c'est aussi parce que cette pratique en commun associait le plaisir et la sécurité de la fusion dans le groupe dansant à l'opportunité d'augmenter ses propres pouvoir, sans aucun regard extérieur, dans la seule relation à soi-même. Tourner, c'est en effet se concentrer sur soi, sur son corps et sur son mouvement. C'est suivre sa propre ligne, indépendamment de toute influence ou de toute finalité. À partir d'une attention exclusive à son déplacement, d'une concentration sur les pouvoirs de son corps, le danseur accroît ses performances, acquiert maîtrise et précision de ses mouvements. Les effets recherchés du spinning en annoncent aussi les limites. Il suscite ou entretient un certain autisme par le plaisir qu'il procure et tente à se perpétuer indéfiniment. Mais quelles que soient les limites du spinning, le type de travail théâtral promu par Wilson fait du paradoxe de la solitude partagée la face cachée et la part obscure de l'entraînement et du jeu de l'acteur, montre à quel point la solitude est première et indépassable, quoi qu'on en dise, mais ne se cultive dans ses possibilités les plus extrêmes que dans le cadre d'un exercice collectif et d'une apparente mise en commun. Laila, comme je l'ai dit, a mis sur pied quelques spectacles, toujours dans l'esprit de la démarche wilsonienne et parfois avec son concours sporadique. J'ai depuis retrouvé dans la littérature sur Wilson une bonne partie des observations que j'ai pu faire. Je ne m'attacherai donc qu'à la difficulté rencontrée par ceux qu'il faut bien faute de mieux nommer acteurs lorsqu'il s'agit de produire une gestualité inhabituelle, notamment du fait de sa lenteur et de sa précision. Cette lenteur, de fait, n'est perçue comme telle que par le spectateur, en référence à une échelle dont le danseur s'est affranchi, puisque Wilson insiste sur le fait qu'il travaille sur le temps réel, mais dans un univers plus vaste. Comment, alors, donner l'impression que le mouvement lent est naturel ? Il ne faut pas imaginer, bien sûr, à travers le terme « naturel », un jeu réaliste ou naturaliste. Comme Wilson le rappelle, jouer naturel sur scène est impossible, c'est toujours artificiel. Ce n'est pas le jeu qui doit sembler naturel, c'est le mouvement. Il s'agit au plus fort de l'artificialité de montrer un nouvel équilibre déroutant par sa facilité. Si Stephen Brecht écrit que les gestes de Cheryl Sutton dans Le regard du sourd sont transposés et quasi naturels, ou si Heiner Müller trouve que, je le cite, le naturel avec lequel les gens meurent en scène, puis se relèvent et s'en vont est confondant, c'est que Wilson ne demande pas aux acteurs de jouer, de simuler, de représenter ou de signifier quoi que ce soit, mais seulement d'enchaîner des gestes, des déplacements, des actes. L'accès à un nouveau schéma corporel ouvert par le spinning, travaillé lors de l'entraînement de l'acteur, contribue à donner cette impression de naturel, d'aisance, de détente, de détachement et d'élégance, éprouvée par l'acteur comme par le spectateur. L'entraînement dans les ateliers facilitait, à n'en pas douter, le respect des exigences wilsoniennes lors de la participation à des spectacles. Les consignes du concepteur du spectacle étaient données sous la forme d'une liste de tâches, comme aller à un rythme donné d'un point à un autre, accomplir un mouvement ou une action précise, décrite en termes factuels, sans aucune forme de justification, d'explication, de motivation. L'intégration dans une création artistique qui n'avait pas été dévoilée préalablement, qui était donc insaisissable en tant que telle par les acteurs, ne posait pas vraiment problème. Le relevé des parcours et des tâches était suffisamment simple pour que chacun s'y retrouve et respecte les consignes à partir d'un vécu qui lui était propre. La vision d'ensemble offerte aux spectateurs était donc à son insu constituée de multiples vécus à la fois personnels et interdépendants. Les acteurs comme les spectateurs étaient susceptibles de réagir à des situations ou des indices à partir desquels ils pouvaient se retrouver sans indication explicite de sens. L'origine des créations reste donc toujours inassignable, empruntant aux improvisations des acteurs, au vocabulaire des différentes cultures et à ce qu'il appelle la grande bibliothèque du monde. Un partage sans véritable contenu commun s'établit à partir de mouvements et d'actions simples, réunissant du plateau à la salle des êtres qui ne savent rien de ce que ressentent les autres, mais qui se concentrent sur eux-mêmes. Alors, ce que Wilson nomme la forme, et ça a été évoqué juste à la fin de la rencontre précédente, cette forme est dictatorialement imposée. La manière de la vivre est en revanche totalement libre. Wilson n'a cessé de lier formalisme et liberté, et jouer pour lui, je le cite, c'est à mi-chemin entre être mécanique et être libre. Donc si au niveau des ateliers libre d'entraînement de l'acteur et de la préparation des spectacles, on retrouve la même conjonction de la solitude la plus totale et de la pratique collective, les implications de cette association paradoxale sont à noter. Côté scène, l'acteur n'est pas invité à transmettre le sens de ses actions. Et côté salle, le spectateur ne doit pas tenter de saisir ce qui n'est pas à partager. Ce serait rompre le charme, violer le domaine privé, porter atteinte au jardin secret. Les émotions ressenties restent intérieures, comme le rappelle Philippe Chemin. Personne n'est invité.
C'est votre père, hein. Je précise, parce que Charles Chemin, le fils de Philippe Chemin, qu'on entendra demain dans la dernière table.
Donc personne n'est invité à fouiller le fond et l'arrière-fond des mondes personnels. Mieux vaut ne rien laisser transpirer des secrets de fabrication. Wilson a souvent rappelé le rejet de l'interprétation, ça a été dit aussi, émis par Susan Sontag, et son mot célèbre, le mystère est dans la surface. Si la solitude est notre lot, même si paradoxalement il nous revient de la mettre en partage, ce n'est pas pour chercher à enlever le secret ou à en déterminer le contenu ou la signification. L'acteur wilsonien reste seul face à lui-même et le spectateur se voit incité à accomplir une démarche parallèle de retour sur soi. Le partage est lié à l'ouverture de ce qui est présenté, qui elle-même dépend du non-dit. À partir de tels présupposés, on devine comment ce type de travail théâtral pouvait s'enrichir d'un contact avec la pratique thérapeutique. Wilson personnellement a privilégié la relation avec des personnes handicapées ou mentalement différentes, considérant que c'était pour lui une occasion d'élargir sa relation au monde. Il s'est toujours énervé lorsqu'on lui demandait s'il avait travaillé avec des patients dans un hôpital, rétorquant que cela est sans intérêt, qu'il est la thérapie. Le bien fondé de ces interventions ne relève pour lui que de choix personnels et de critères artistiques. Sa manière d'agir a constamment récusé les normes qui départagent communément la maladie de la normalité. Le souci thérapeutique relève donc exclusivement des personnels soignants. Mon expérience de 1973 m'a permis de sentir la continuité entre la pratique théâtrale dans des lieux dévolus au théâtre et celle exercée dans un cadre thérapeutique. L'esprit de la démarche wilsonienne reste le même. Partir du corps, ne pas imposer de parole, rester en surface, ne rien interpréter. Serge Duché, parallèlement à son implication dans le groupe Laïla, intervenait aussi dans le service du professeur Lanteri-Laura à l'hôpital psychiatrique de Saint-Maurice, l'ancien Charenton. Pour avoir participé à quelques séances, je garde le souvenir d'exercices comme celui qui consiste à reprendre des gestes en miroir, mais les participants formant un cercle et reproduisant les mouvements effectués par la personne précédente en évitant toute posture de leader et tout face à face, puisque on formait un cercle. Je me rappelle un malade agité dont les gestes ressemblaient à ceux d'un pianiste fou et le concert des reprises qui s'en est suivi. Les gestes étaient reproduits ou réinterprétés passant d'un corps à un autre corps. Les mouvements restitués sans recherche de leur sens éventuel, acceptés tels qu'ils étaient, comme des effets de surface. Il y avait là une occasion privilégiée d'accroître le vocabulaire des gestes et de solliciter le psychisme à partir du corps. Quelques mots de conclusion, je dirais qu'ils répondent à une finalité artistique ou s'inscrivent dans un contexte plus complexe. Le type de travail théâtral développé par Bob Wilson, qui a inspiré bien des ateliers et renouvelé la perception de la fonction acteur, offre la particularité de concilier solitude et être en commun. L'être en commun est la dimension nécessaire à la recherche de soi, mais la communauté créée, tant pis si je ne fais pas plaisir à tout le monde, n'implique aucun partage autre que celui de notre lot de solitude.
Merci Marie-Vonne. Sur cette question de la communauté qui fera plaisir quand même à certains. Je pense à Christophe Trio qui anime une table demain et qui a beaucoup écrit là-dessus, justement, cette communauté qui n'implique aucun partage. Ouais.
Je passe tout de suite la parole à Georges Banu, qui est donc essayiste, professeur d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et à l'Université de Sibiu en Roumanie. Il est co-rédacteur en chef de la revue Alternative Théâtrale, co-directeur de la collection Le Temps du Théâtre chez Actes Sud. Et Georges Banu a publié un grand nombre d'ouvrages sur le théâtre, dont je ne citerai que le très récent Miniature théorique chez Actes Sud. Et il a été 3 fois lauréat du prix de la critique pour le meilleur livre de théâtre en France. Sa réflexion s'intitule « De l'acteur sans ombre à l'ombre de l'acteur ».
Voilà. Merci beaucoup. D'abord, je voulais commencer par référence. J'ai écrit à un moment donné un article sur l'accident au théâtre et je le terminais en disant « J'attends un accident dans un spectacle de Bob Wilson ». Bob Wilson a eu un accident. Il s'est foulé la cheville justement dans Hamlet. Presque 3 jours après l'apparition de cet article, que les amis de Bobigny sont fait un plaisir de lui montrer, et il a eu des mots extrêmement ironiques à l'égard de mes pouvoirs de divination. Et donc, comme il y a un accident qui m'est arrivé tout à l'heure, je me suis dit c'est la meilleure manière de parler aussi de ceux qui échappent à l'emprise de Bob Wilson. Parfois, l'accident et le plus souvent, l'ombre. Mais avant de commencer, je pense qu'il y a une vulgate autour de dont on a entendu parler un peu ce matin, tu vois, Bob Wilson, l'impersonnalité, la surface, je m'aligne complètement à cette analyse très juste. Elle est entretenue par Wilson lui-même, il ne faut pas oublier, parce qu'il est à la fois producteur et analyste de son œuvre. Mais je crois que nous sommes tous, moi j'ai eu le privilège de voir Sacha Goldman avant-hier, donc j'ai vu les documents qu'il nous a montrés. Nous avons été tous surpris, il l'avait déjà, Bob Wilson dit, mais nous avons été tous surpris par l'impact, par l'empreinte, disons, de l'enfance sur son œuvre, ce qui le rattache à un artiste nettement moins impersonnel que son théâtre le laisse croire. Et je voudrais commencer par une petite histoire qui atteste cette hypothèse formulée explicitement par Sacha ce matin. Donc j'étais à Bucarest pour un exercice tout à fait inattendu. J'aurais jamais cru que Bob Wilson allait accepter ça, de recevoir le titre de docteur honoris causa d'une université de théâtre un peu minable, modestement équipé. Il est venu, on a une photo tous les deux en robe, chapeau de docteur honoris causa. Moi, je faisais la présentation. Ensuite, il s'est livré à une très, très longue séance de signature avec des dessins pour chaque étudiant. Et à la fin, on est allé dans un restaurant et j'avais l'idée de préparer une exposition pour Beaubourg qui finalement ne s'est pas faite, pas à cause de Beaubourg, autour de chaises, parce qu'il y avait le centenaire Ionesco, mais comme Marie-France Ionesco a décidé que Ionesco ne doit pas avoir avec la Roumanie, étant roumain, je me suis dit, c'est pas la peine de m'embarquer dans cette histoire. Ça, c'est des petites querelles personnelles, mais qui ont une dimension un peu particulière pour nous. Donc, je demande à Bob Wilson, Bob, tu as fait des chaises. Et pourquoi tu fais des chaises? Et j'ai senti que la question l'intéressait, elle était naïve. Je suis pas un spécialiste de Wilson. L'ombre de Frédéric Morin pèse sur moi, donc j'ai suivi sa thèse, tout ça. Donc j'ai été formé par lui, mais il répondait pas quand même. Et au bout de quelques minutes, il a répondu et moi j'étais marqué par ce souvenir. Il m'a dit, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais un oncle. J'avais un oncle qui était un peu poète, un peu bizarre, qui vivait très seul, mais qui m'aimait beaucoup. J'allais le voir et il avait une chaise. Et à ce moment-là, Wilson, un peu comme ce matin, il commence à voir la chaise, voir dans le sens voir, pas regarder, à voir la chaise. Il dit, c'est une très belle chaise, un très beau bois, des proportions parfaites. il répète des proportions parfaites. Et quand l'oncle est mort, m'a légué la chaise. Donc, moi, j'avais 12 ans. Quatre ans plus tard, un cousin, ou un neveu, pardon, de l'oncle, se réveille et il m'écrit une lettre très violente en me disant « Il faut que tu me rendes la chaise parce que tu as spolié mon héritage, la chaise me revient. » Et Wilson dit « J'ai hésité, je lui ai rendu la chaise et depuis je fais des chaises. » Et je trouve très beau ça, parce que au fond, c'était une réponse moins formaliste que je m'attendais. Ensuite, il a fait des chaises. C'est une histoire qui remonte à un moment assez important et, d'une certaine manière, à une frustration. Voilà, deuxième point, je me suis dit, je ne vais pas me presser, parce que ce n'est pas dans un colloque sur Wilson qui ne se presse jamais que je vais me presser. Donc, je ne prends pas mon temps, mais... J'ai attendu toute la journée, donc c'est une décision que j'ai prise à tout à l'heure dans l'obscurité, parce que j'ai dit, ben, je vais faire vite. Ben non, on ne va pas faire vite ici. Ce que je voulais dire d'abord, c'est que moi, je ne suis pas expert de Wilson. J'ai découvert de manière un peu accidentelle Wilson et que cette proposition de communication que j'ai faite est faite vraiment à la suite d'une discussion que j'ai eue avec Frédéric Morin où j'ai décliné son invitation. Mais finalement, je me suis dit, osons faire quelque chose, même si on n'est pas, si on ne fait pas partie du monde qui entoure un artiste. C'est pas le sérail, c'est un monde qui entoure un artiste, qui connaît ses choix, qui a un regard plus juste. Peut-être que parce que je suis étranger, pas étranger en tant que Français, mais parce que je suis étranger au monde de Wilson, c'est peut-être à cause de ça que j'ai aimé certains spectacles de Wilson qui n'étaient pas aimés par les Wilsoniens. Il y a toujours un décalage entre les gens de l'intérieur et les gens qui sont légèrement à l'extérieur. Donc, de l'acteur sans ombre à l'ombre de l'acteur, texte qui est dédié à Frédéric Morin. Donc, je voudrais commencer par le fait que, au fond, cette question de l'ombre est une question qui concerne pas seulement Rembrandt et Georges de la Tour, mais certains artistes de la modernité. Et je voudrais commencer par une citation de Boltanski. Boltanski dit « Je mets beaucoup de choses en rapport avec les ombres. Premièrement, elles rappellent la mort. N'emploie-t-on pas l'expression « reine des ombres » Puis, il y a un rapport immédiat à la photographie. Le mot signifie en grec « écriture avec de la lumière ». L'ombre est donc une photographie primitive. Il y a aussi la grotte de Platon, mais ça, je l'ai appris plus tard. Mais l'ombre est aussi le leurre en soi, une duperie. L'ombre est la représentation en soi d'un deus ex machina. C'est dans ce sens que l'ombre m'intéresse, puisqu'elle est le théâtre lui-même dans le sens d'artifice. Ce que j'aime dans les ombres, c'est leur caractère éphémère. D'un moment à l'autre, elles peuvent disparaître. Dès que le réflecteur et la bougie sont éteints, elles ne sont plus là. Donc, longtemps, les acteurs de Wilson ont été des acteurs sans ombre. Ils faisaient penser soit au profil des bas-reliefs égyptiens, soit aux Nabis et à Gauguin. Nous savons tous que les Nabis et Gauguin, par l'influence de l'estampe japonaise, ont refusé les ombres et ont cultivé le contour. Gauguin dit, en supprimant les ombres, je veux supprimer l'illusion d'une chose. Et Gombrich, dans un petit livre, qui est plutôt un catalogue d'exposition, Les ombres portées, il écrit « La vague japonisante de la fin du XIXe siècle a tout fait de persuader les Occidentaux que l'on peut aisément éliminer les ombres au profit de l'aspect décoratif et plastique des compositions. » Chez Wilson, dans le même esprit, l'on retrouve l'attrait de la surface et le refus de toute profondeur. L'acteur sans ombre, voilà l'acteur de Wilson. Frédéric Morin écrit à ce sujet. Devant cette membrane translucide d'air et de temps, les silhouettes se détachent à contre-jour. L'illusion de l'épaisseur se dissipe, le modelé du corps s'aplatit, les contours saillent, les formes se découpent. Par rapport à cette observation qui atteste le règne généralisé des deux dimensions, parfois un phénomène d'épaississement tout de même se produit. Comme lorsqu'on voit par exemple les acteurs du Dramaten de Stockholm dans la mise en scène du songe de Strindberg, ceux d'Oslo dans Peer Gynt, Piccoli dans La maladie de la mort, ou les acteurs de Berlin Ensemble dans l'opéra de Katsu. À tous ces exemples s'ajoute Wilson lui-même. Mais ça tombe, c'est parfaitement. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est l'accident, dans le sens le plus sympathique du terme. Donc, est-ce que c'est peut-être le signe des régisseurs qu'il faut partir ?
Non, je ne pense pas. Non, on a le temps.
Donc, je dirais que Wilson produit aussi ce sentiment, cette impression que les contours chez ces acteurs, que j'ai beaucoup aimés, les acteurs de Dramaten, d'Oslo, de Berliner, même Piccoli, on le voit ici, je l'ai préféré au spectacle. Donc, dans ces cas-là, j'ai l'impression que les contours perdent leur netteté d'auparavant et projettent, métaphoriquement parlant, une sorte d'ombre portée. Et pour continuer avec les citations de Gombrich, qui sont très utiles en l'occurrence, Gombrich dit « L'apparition d'une ombre atteste la matérialité d'un être ou d'un objet, car ce qui projette une ombre est forcément réel. L'acteur impose donc une matérialité et un volume le plus souvent occulté. Mais en même temps, ainsi, les acteurs contrarient, échappent, se dérobent à la perfection chorégraphique et plastique propre à Wilson. » Par rapport aux codes souverainement imposés, ils peuvent apparaître comme imparfaits. Mais on le sait, c'est la pierre brute qui est ombragée. La déformation, l'imperfection sont source de l'ombre. C'est l'ombre d'un insoumis, de l'acteur qui résiste, non pas délibérément, mais organiquement. Il renvoie à une ombre, disons, mentale, produite par lui-même et non pas programmée par le metteur en scène. Chargé d'ombre, il ne semble plus se trouver entièrement sous l'emprise de Wilson. Il acquiert en partie une réalité propre, irréductible. Il ne s'évanouit plus dans le projet qui lui accordait un statut prioritairement plastique. Cette observation permet d'avancer l'hypothèse d'une modification radicale, d'une négation discrète de l'extériorité, grâce aux acteurs. Et cela semble confirmer un très beau propos de Caspar David Friedrich. Le peintre ne doit pas seulement peindre ce qu'il voit devant lui, mais également ce qu'il voit en lui. S'il ne voit rien en lui, alors qu'il renonce également à peindre ce qu'il voit devant lui. Grâce à ces acteurs, auxquels je rends hommage, on peut dire que nous ne voyons plus, nous ne contentons plus de voir seulement ce que Wilson veut qu'on voit, mais qu'eux nous permettent de voir ce qu'il refuse de montrer. Une distinction peut être rappelée. D'une part, il y a l'ombre cernée qui engendre et qui est à l'origine d'un redoublement de l'acteur sur le plateau. C'est l'effet du travail sur les éclairages. C'est une ombre produite par le travail de la mise en scène. Et Wilson, lui-même, l'a pratiqué souvent. Il suffit de se rappeler justement la femme sans ombre. Mais d'autre part, il y a l'ombre portée, l'ombre projetée sur le sol ou ailleurs par l'objet éclairé sans qu'il soit forcément présent et sans que cela engendre un reflet symétrique de redoublement. L'ombre portée par rapport à l'autre est diffuse au contour incertain et est énigmatique. Enfin, je crois qu'on peut parler aussi de la part d'ombre qui renvoie à la part secrète, non maîtrisée de l'acteur, part issue d'une sorte de résistance du matériau, de son épaisseur, une ombre qui s'impose à un certain sens malgré soi. Ces acteurs dont je parle se définissent par une sorte d'inaptitude ou de refus implicite d'accomplir intégralement le programme wilsonien. On disait tout à l'heure que pour Wilson, il n'y a pas de différence entre professionnel et amateur. Je ne suis pas tout à fait convaincu, car bizarrement, les amateurs sont parfaits. Les grands acteurs professionnels sont imparfaits. Et justement, cette imperfection porte ombrage à la pureté générale. Cette imperfection apporte une dimension cachée et c'est ce que j'aime grâce à eux, ce que je découvre grâce à eux. Mais par ailleurs, je crois qu'on peut reconnaître ici ou là, ces derniers temps, un enténébrement de la scène wilsonienne, et de là surgit la part d'ombre tant évacuée, voire interdite auparavant. On accède ainsi à ce que Tanizaki décrit dans son célèbre Éloge de l'ombre comme étant l'espace ombreux, espace à l'incertaine clarté. Tanizaki exalte l'ombre, la part d'ombre, à l'opposé, dit-il, de la culture occidentale qui privilégie la brillance et la netteté du trait. Wilson, tout au long de sa carrière, a fait sienne cette posture rétive à la poétique du clair-obscur, car dans l'art, la dimension ombrageuse poétise et Wilson exècre ça. Il écarte la profondeur de l'ombre, équivalent sur le plan visuel de la profondeur de la psychologie. Wilson, longtemps, a voulu seulement exposer des corps et non pas analyser des conduites. Mais l'ombre qui émerge parfois, même chez lui, offre au spectateur aujourd'hui une liberté absente auparavant. Et presque en co-auteur passager, celui-ci intervient pour recomposer lui-même mentalement la totalité du dispositif. Chez le spectateur ainsi mobilisé, s'éveille un véritable imaginaire personnel, imaginaire singulier et solitaire, que l'œuvre stimule par ce qu'elle dissimule et que l'artiste suscite par ce qu'il cache. Il y a toujours quelque chose d'absent. Et le spectateur aime justement cela, cette absence à investir, ce visible qui se dérobe, bref, ce manque qui le rend nécessaire. Lui, le spectateur. Dans ces cas bien précis, le spectacle produit un effet d'absorption du spectateur dans l'image qui cesse d'être surface, effet habituellement inconnu chez Wilson. Est-ce que la part d'ombre qui s'accroît est le signe d'un accord de Wilson avec le rapprochement progressif de la nuit? Est-ce qu'il laisse monter en lui l'obscurité? Est-ce que les certitudes de la surface s'apaisent et les contours s'estompent pour intégrer une profondeur écartée auparavant? Le théâtre de Wilson, aujourd'hui, me semble qu'il n'est plus en désaccord avec l'ombre. Et il fait sienne cette conviction magnifique d'un romantique allemand: le monde est profond, plus profond que ne l'a pensé le jour. Plonger dans l'ombre ce qui est trop visible, écrit Tanizaki. Ce propos de Tanizaki se retrouve dans certains spectacles récents de Wilson. À la netteté de jadis succède l'attrait des transitions moins franches, pas vraiment des ambiances, mais des climats où les ruptures sont plus imperceptibles. L'opéra de Katsu tout à l'heure le prouvait. Les dégradés, si cachés soient-ils, contrarient et contestent la netteté des anciens plans lumière, se présentent comme le préambule de l'obscurité dont Wilson semble éprouver le goût. Le traitement de la nuit devient essentiel car il lui permet d'opérer la raréfaction de la matière et le brouillage des contours qui plongent l'être au cœur de l'énigme. S'accommoder à l'ombre, c'est pour Tanizaki ne plus s'agiter sans cesse à la poursuite d'un état meilleur que le présent. Oui, c'est d'une acceptation qu'il s'agit autant que d'une dissolution. Et cela permet l'accès à la part d'ombre en soi, part d'ombre qui s'éveille grâce au traitement de l'obscurité sur le plateau par Wilson. Et finalement, ce que je veux dire, que c'est l'acteur qui se trouve à l'origine de cet éveil. Si l'on a fini la discussion, on pourrait convoquer la distinction entre le sfumato de Léonard et le ténébrisme de Caravage, et je crois que chez Wilson, on les retrouve alternativement ces derniers temps, sans qu'il choisisse explicitement l'une ou l'autre des hypothèses. La part d'ombre renvoie un passé à une vétusté, à une mélancolie, à une absence. Elle engendre le calme d'un secret dont on n'est pas maître. Wilson, par cette présence épisodique de l'ombre, semble abandonner en douceur son autorité de jadis, sa présence assumée. Il laisse monter en lui un goût pour ce qui se dérobe, semble limiter le pouvoir qui se manifestait autrement de manière si accusée. Qui supporterait longtemps le soleil du jour s'il n'était pas possible de s'envelopper d'une ombre bienfaisante, se demandait un auteur cher à Wilson, Strindberg. Tout ce qui brille voit, disait Bachelard. Cette surveillance décline aujourd'hui sur le plateau wilsonien et laisse plutôt à la place à une bienveillance dont fait preuve désormais le maître de jadis. Si Wilson a été à l'origine brechtien dans le sens où il a engagé une guerre contre l'ombre, il devient de plus en plus wagnérien, voire grubérien. Et parce que la scène se trouve ensevelie d'obscurité, les acteurs, eux aussi, sacrifient la restriction du trait, propre au dessinateur de génie qu'il était auparavant, et se rapprochent des volumes propres aux ténébristes, pour qui la couleur l'emporte toujours sur le contour. L'ombre consacre la défaite du trait. Gombrich, à partir des œuvres de Quirico, parle de la vocation des ombres à guider et à dérouter tout à la fois le spectateur. Oui, le constat convient à Wilson, qui désormais semble vouloir moins surprendre qu'attirer, absorber, produire de l'énigmatique chère à Maeterlinck, l'énigmatique de, je cite, de cette nuit qui ne s'arrête pas au seuil des portes, la nuit du monde qui s'empare de nous. Il faut distinguer entre l'ombre comme épaisseur supplémentaire, refusée ou occultée auparavant, et le désordre nocturne auquel Wilson reste entièrement étranger. Le désordre comme perturbation du programme, comme brisure de la ligne et amoncellement de la matière sur la scène. Chez Wilson actuellement, la matière reste toujours sous contrôle, ce qui semble acquérir une dimension nouvelle, ce sont les éclairages et les acteurs. Il laisse surgir une part d'ombre, non pas effectivement lisible sur le plateau, mais perceptible par un public invité à plonger dans la nuit, plutôt qu'à suivre la danse des formes. Affaiblissement progressif de la distance, au profit d'une montée bien contrôlée de l'émotion. Et aussi d'un danger probable, imprévisible et incertain, dont la scène wilsonienne semblait parfois être investie. Chez Gruber, l'ombre s'est imposée assez rapidement. Elle témoignait d'une fatigue éclairée. Chez Wilson, elle fut gagnée progressivement au prix d'un sacrifice, d'un abandon de l'ancienne énergie, d'un cheminement vers l'obscur. Wilson est un converti à la nuit. Il y a un cheminement vers le noir. Et Kandinsky écrit à cet égard, « Le bleu, en glissant vers le noir, se colore d'une tristesse qui dépasse l'humain. Tandis que le noir pur, lorsqu'il s'impose, il s'impose comme un bûcher éteint, consommé, qui a cessé de brûler. L'ombre portée produit un effet d'étrangeté dans la mesure où elle reste incertaine, redoublement plutôt rêvé que lisible du monde. En cela consiste la nouveauté des ombres actuelles chez Wilson, qui, même s'il ne les cultive pas délibérément, cesse de les pourchasser et de les interdire. Il accorde au plateau non seulement de l'étrangeté, mais également de la vulnérabilité. Vulnérabilité propre à tout cadre d'expérience où l'être ne se trouve plus strictement délimité, mais où il est également désarmé, car l'imprévu peut surgir à tout moment et la sécurité n'est point assurée. Il y a perte de repères et affranchissement des frontières. Et parfois, ce sont les acteurs qui se trouvent à l'origine de cette apparente dérive vers l'obscur et l'ombre de ce théâtre de la lumière et de la découpe nette. On reconnaît dans toute montée de la nuit soit une amorce de la mélancolie, soit un éveil de Méphisto. L'ancienne foi dans l'électricité s'estompe, elle ne s'affiche plus dans sa dimension conquérante. Elle construit chez Wilson des dispositifs d'assombrissement. La part d'ombre, repli du contrôle et amorce de la dissolution, accès à l'étrangeté grâce aux effets de nuit. Wilson rejoint ainsi Dali et surtout Magritte qui se lançait le défi suivant. Je veux peindre un paysage en plein soleil avec un ciel nocturne, étoiles et croissants de lune. Je puis penser à un paysage ensoleillé sous un ciel nocturne, mais le voir et le reproduire par la peinture n'est possible que si l'on est Dieu. En attendant de le devenir, j'abandonne le sujet. Mais Wilson, je pense, qui se livre à ce défi, parfois il le relève et il réussit à l'accomplir. Cette présence de l'ombre, voire même de la nuit, n'entraîne pas sur la scène wilsonienne un apaisement, n'engendre ni quiétude ni somnolence. Et Wilson conforte le propos de Maurice Blanchot. La nuit, l'essence de la nuit, ne nous laisse pas dormir, écrivait-il, pour faire non pas du sommeil, mais de l'insomnie, l'état qui révèle les pouvoirs de la nuit et rend captif l'être qui en subit l'emprise. Ces nuits wilsoniennes sont anonymes, sans cesser d'être identifiées. Nuit dont, bien qu'il soit discrètement présent, Wilson dégage toutes les ressources hallucinatoires. Nuit sans sommeil, nuit qui à l'origine surgit en partie grâce à l'acteur qui a osé ne plus perdre mais s'emparer de son ombre. Ainsi, le théâtre de Wilson tout entier découvrit l'attrait et révéla de plus en plus fréquemment sa part d'ombre. Je vous remercie.
Merci Georges pour ce travail sur le cheminement vers l'obscur et surtout sur la part de l'acteur dans ce que vous appelez la dérive vers l'obscur. Vous avez parlé d'amateur parfait, de professionnel imparfait, c'est une espèce de petite cabriole pour en venir à parler avec Gilles Anquetil et avec Charles Chemin de l'intérieur cette fois, peut-être moins en étranger au monde wilsonien mais plutôt en l'ayant intégré ou en l'intégrant toujours. Je vais commencer par Gilles, comme ça va faire rebond directement sur ce que nous a dit Marie-Vonne Saison. Gilles Anquetil est journaliste, rédacteur en chef au Nouvel Observateur, spécialiste en fait de l'Iran, et s'il a accepté de parler de Robert Wilson aujourd'hui, c'est parce que un long compagnonnage le lie au metteur en scène. Il a rencontré Robert Wilson dès 1972 et a participé en Iran, à Shiraz, au spectacle Kamountain, auquel faisait allusion tout à l'heure Marie-Vonne, et à ouverture, puis à l'installation de Wilson au musée Galliera. Vous pourrez repréciser tout à l'heure ces points-là. Évidemment, sans avoir de formation, ni de danseur, ni de comédien, vous étiez déjà journaliste d'ailleurs à cette époque-là. Vous avez aussi participé à des spectacles d'Andy de Groot et aux travaux de l'antenne wilsonienne à Paris, le groupe Laila, où vous avez rencontré sans doute Marie-Vonne à quelques occasions. Vous avez aussi improvisé avec des malades mentaux pendant un an dans le cadre d'un workshop organisé par Serge Duché à Charenton, vous en parliez aussi. Et en tant que journaliste, on vous doit beaucoup de reportages, des reportages sur Watermill, des articles sur Robert Wilson, des interviews, et vous l'avez aussi suivi en spectateur extrêmement averti. Du coup, vous pouvez nous dire aussi comment s'est élaboré depuis ces années 70 le langage scénique de Wilson de spectacle en spectacle. Première question qui va de soi, quelle remarque vous inspire l'intervention de Marie-Vonne Saison? Est-ce que vous retrouvez certaines sensations et certaines...
Tout à fait, parce que tout le groupe de la Bird of Man qui était à Paris au moment de l'aventure d'ouverture, c'est le spectacle, et de ce qui se passait avant au musée Galliera. C'est-à-dire qu'ouverture, c'est un spectacle qui durait 24 heures, qui commençait à minuit, qui se terminait à minuit à l'Opéra Comique. Mais avant, il y avait toute une installation qui avait été organisée au musée Galliera, où il y avait de la danse, où il y avait des... on avait une installation, on avait... Bob voulait absolument mettre du sable dans tout le musée, des camions de sable arrivaient, aux grandes dames de Madame Dene, qui était justement la directrice du musée Galliera, ce qui n'a pas empêché ensuite d'accepter de jouer dans Queen Victoria, Madame Dene. Et ensuite, donc, ça se passait comme ça, c'est-à-dire que on faisait des workshops, on travaillait, et puis après, on était entraînés. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après le départ de Bob aux États-Unis, ceux qui restaient, qui avaient participé à l'ouverture, qui avaient participé à ces workshops, étaient un petit peu les orphelins de la Bird of Man. Et donc, on a continué par nos propres moyens, et avec Farid Chopel, bien sûr, qui n'était pas encore avec Serge Dussé. Mais l'expérience la plus intéressante, c'était quand même ce qui s'est passé à Charenton. C'est-à-dire, c'était le mardi matin et le vendredi matin. Alors, sous le prétexte d'expression corporelle, c'était comme ça que Serge Duché l'avait vendu au médecin-chef Lantieri Laura. Donc on arrivait dans une salle, très belle salle, vitrée, comme ça, qui donnait sur la Marne. On traversait l'atelier d'ergothérapie. Et là, on mettait de la musique, on commençait à tourner en cercle, tout ça. Puis venait qui venait. Petit à petit, il y avait des malades qui venaient, des malades qui venaient pas, et c'est comme ça que la machine s'est mise en route dans un climat d'hostilité assez important des infirmiers. Mais petit à petit, comme ça fonctionnait, après même on a fait venir des gens. Et la personne dont parlait Marie-Vonne, il s'appelait Gérard, et c'est quelqu'un qui avait des gestes compulsifs qui n'arrêtaient pas, qui n'avait pas parlé depuis des mois. Bien sûr, on ne savait rien d'eux, on n'avait aucun dossier thérapeutique, on arrivait comme ça avec l'innocence même, et lui il avait il était toujours comme ça, il n'arrêtait pas. Et alors, tout le jeu avec lui, c'était d'essayer de ralentir, de dupliquer en miroir, et tout ce que Bob nous avait appris dans les ateliers. Et petit à petit, au bout de, donc ça a duré un an, après, bon, la pression du personnel soignant était tellement forte qu'ils ont chassé. Bien sûr, on n'était pas payé ni rien, hein. Bon, c'était l'esprit de l'époque. Et donc, et Gérard, à la fin, a commencé à parler. Lui qui n'est pas parlé depuis 10 ans, à force de ralentir ses mouvements, tout ça. Bon. Et tout ça, ça fait partie aussi du climat tout à fait de l'époque. Pour le spectacle Ouverture, qui passait pendant 24 heures, il y a eu certains épisodes à la limite de la psychiatrie. Même Cindy Lubar, qui dansait avec... avec Bob, était partie dans un trip, elle n'était pas du tout maîtrisable. Un autre garçon s'était mis, comme ça on ne le connaissait pas, s'est installé à minuit en yogi à la gauche de la scène, et pendant 24 heures, il n'a pas bougé. C'était ça, et Bob jouait avec ça, quoi. Et lui, qui avait une discipline, qui exigeait une discipline très forte, aux gens, c'est-à-dire sur le mouvement, sur la concentration. Moi, je me souviens, une de mes interventions au Opéra Comique, c'était de traverser la scène pendant une heure et demie, avec une pomme dans la main, tout en blanc, comme ça, la consigne était de mettre le plus longtemps possible, le plus lentement possible, mais en donnant toujours le sentiment du mouvement aux spectateurs. Donc c'est un exercice de concentration assez intéressant. Et bien sûr, c'était juste devant la scène, et puis derrière, il se passait d'autres choses. Il y avait déjà des choses qu'on retrouve. Les fauteuils étaient là, le grand fauteuil qu'on a retrouvé partout, dans Queen Victoria, dans tous ces spectacles, les chaises et plein de choses. Et c'est là aussi qui était assez étrange chez Bob Wilson, c'est-à-dire que le spectacle durait 24 heures, et quasiment les 3 jours qu'on a eu au théâtre de répétition, il les a consacrés quasiment à la première heure avec Madeleine Renaud, pour qui il avait une adoration. Et donc, il s'occupait surtout des lumières. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec Madeleine Renaud, qui est donc... après, il restait quand même 22 heures de spectacle, quand même.
Est-ce que vous êtes en train de dire qu'entre les professionnels et les amateurs, il y avait différence ou pas différence?
Non, sauf les musiciens. Parce que les musiciens, quand on n'était pas musicien, on ne pouvait pas jouer d'un instrument. Mais je finis juste sur Madeleine Renaud, parce que ce qui est intéressant quand on voit les débuts, c'est que de voir après comment aussi il reduplique des choses. Et Madeleine Renaud, après, quand je l'ai vu, j'ai vu Bob en Allemagne, au moment de Roi Lear, un spectacle extraordinaire d'ailleurs, qui malheureusement n'est pas venu en France, où il joue beaucoup sur des bandes, des effets de zoom, un effet de cinémascope très étonnant. Mais vraiment, c'est un spectacle visuellement absolument magique. Et alors, il me présente, il dit, tiens, et le Roi Lear était joué, bien sûr, par une femme, et c'était par Marianne Hoppe, qui était qui avait 80 ans à l'époque, qui était une formidable actrice, et il me dit, c'est la Madeleine Renaud, allemande. Je le retrouve quelques années après en Allemagne, pour un spectacle, qui s'appelle Don Juan, en espagnol, mais pas d'autres gens dans Molière, mais écrit par un écrivain catalan, un spectacle exécrable, d'ailleurs, ce qui explique pourquoi ça marche pas. Bob, avec les latins, il lui faut des français, des allemands ou des suédois, vraiment. Autrement, ça marche pas. Et il a dit, Gilles, je te présente la Madeleine Renaud, espagnol. Et là, j'ai eu, tout à l'heure, en voyant l'écran, tout à l'heure, en voyant l'opéra de Katsu, là, tout d'un coup, j'ai eu un flash, la vieille femme, là, qu'on voit, là, avec la perruque, tout ça, c'est exactement Madeleine Renaud, pendant Ouverture. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant que, quand on voit Bob, on le connaît au début, par exemple, ce que fait Charles quand il ouvre la bouche dans les fables, c'est exactement des choses. Qu'on faisait au début dans les années 72. C'est-à-dire, c'est le cri sans cri, c'est-à-dire le cri muet. On ouvre la bouche comme ça, ou alors le cri hurle, ou alors tirer la langue aussi, qui était un grand gimmick de Bob Wilson, qui est aussi, parce que ce matin, je crois, on l'a pas dit du tout aujourd'hui, mais là, on se rend compte dans ce qu'on a vu avec les fables et ce qu'on peut voir aussi avec 400 coups, il y a tout un effet burlesque, comique de chez Bob Wilson, vraiment un sens vraiment du gag visuel ou sonore que vraiment et c'est drôle parce que les gens sont constipés les spectateurs ils osent pas rire en Allemagne on rit plus aux États-Unis ici en France on prend ça là et j'étais content d'entendre des rires tout à l'heure quand on voyait les quelques scènes. Voilà. Il y avait aussi je pourrais parler aussi de tout le bestiaire qui commençait par le regard de sourd. Ça commençait avec la tortue. Moi-même, j'ai été un lion dans l'ouverture. Charles a été un cerf. Et c'est avec l'apothéose de ces bestiaires, ça a été quand même la fable.
Avant de reparler du bestiaire, je voudrais qu'on parle du rapport de Robert Wilson au langage. Puisqu'on a dit qu'il a travaillé son bégaiement sur scène, vous l'avez vu, vous, travailler sur les dialogues avec Christopher Knowles. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage?
Mais je crois qu'il y a
deux pathologies verbales.
Deux choses, oui. Bob a été quasiment muet, mutique, ou quasiment autiste vers 14-15 ans. Donc... il a été soigné par quelqu'un qui l'a aidé. Mais ça, il en parle pas. Ça, mais... Et puis, il n'y a pas cette croyance que le langage est une chose naturelle et qui permet de véhiculer ses sentiments, ses affections, tout ça. Donc, c'est un matériau compliqué. Et en même temps, dont il fait un usage plutôt comme un matériau. Et c'est vrai que la double rencontre des textes de Gertrude Stein, qui sont des textes très répétitifs, tout ça, que nous, on devait dire dinosaur, tout ça, bon, ça découpe, plus l'invention verbale de Christopher Knowles, qui avait à la poche 14 ans, et qui, lui, pour le coup, était vraiment autiste, puisque même il écrivait des cahiers comme ça. Et Bob avait compris qu'en fait, il avait tout un langage crypté et que toutes les 7 ou 11 lettres, je ne sais pas le chiffre exact, si on les reliait, mais c'est quand même un code militaire, il y avait un sous-texte que Christopher avait créé. Ça, c'est Bob qui me l'a dit. Et donc, c'était très important que le langage ne soit pas en haut de la hiérarchie. Et c'est ce que disait Giuseppe tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le théâtre de Bob Wilson, c'est que les sensations, les sens n'ont pas d'hierarchie. C'est-à-dire entre ce qu'on voit, entre le temps, la lumière, l'espace, la voix, il ne fait aucune hiérarchie. Et même, quelquefois, il dit, ça m'a fait rire, il imaginait pour un opéra qu'il a monté, il y a une panne de musique ou je sais pas quoi. Il dit c'est pas grave, le spectacle peut continuer même sans musique, il sera peut-être aussi bien.
C'est très troublant ce rapport donc au langage parce que la plupart du temps, et peut-être après je vais passer la parole à Charles qui pourra peut-être aussi rebondir là-dessus. La plupart du temps, il fait travailler des acteurs qui travaille dans une langue qu'il ne connaît absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a un métissage en plus linguistique dans certains spectacles qui est tout à fait notable. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va chercher comme ça dans la langue de l'autre ?
Les sons. Alors, l'exemple le plus parfait, par exemple, c'est quand je parlais tout à l'heure de cette expérience de Don Juan à Madrid, où ça s'était très mal passé. Peut-être que les répétitions avaient été trop courtes, je ne sais pas. Et puis, il n'a pas eu le temps, peut-être, de dompter ou de modeler les acteurs madrilènes, dont la Madeleine Renaud espagnole, et que donc, tout ce qu'il leur avait indiqué était surjoué dans la gestuelle, aux grandes dames de Bob Wilson, et surtout, le lyrisme même de l'espagnol faisait que c'était surjoué. Donc, tout ce qui était, et devait être l'austérité de Bob... N'oubliez pas aussi que l'esthétique de Bob Wilson, on en a parlé, c'est le Texas, tout ça, mais c'est aussi la rigueur Quaker, il adore ça dans les meubles, tout ça, il y a une sorte de puritanisme aussi de l'early America qui ne correspond pas du tout à l'exubérance latine, quoi. Et donc là, c'est, et là, donc l'espagnol lui échappait, et donc il a peut-être. Alors qu'avec les Suédois, avec les Allemands, alors là, c'est le régal absolu, là. C'est sa langue, c'est les sons, ces blocs de sons, même s'il comprend pas, ça le fascine. Parce que il ne faut pas des langues fluides, lyriques. C'est pas un lyrique, Bob. C'est un architecte d'abord. Il construit des blocs, il les met ensemble, il fait des lignes, il crée des dynamiques, des diagonales, tout ça. Mais c'est pas un chanteur de bel canto, quoi.
Alors Charles Chemin, donc. Je vais vous présenter d'abord, est acteur, metteur en scène aussi depuis quelques temps, on va en reparler tout de suite. Alors vous êtes le plus jeune, vous avez déjà pourtant une longue carrière d'acteur qui commence, bien sûr, sous la direction de Robert Wilson et de votre père Philippe Chemin qui en a été l'assistant et dont on entendra le témoignage demain. On peut dire en quelque sorte que vous avez été formé, vous, c'est une vraie formation, par votre père et par Robert Wilson, et vous êtes un familier du Watermill Center où vous allez assez régulièrement l'été, et depuis 1973, vous y avez même...
93.
C'était Watermill, oui, c'est ça. N'hésitez pas encore. Vous y avez même bénéficié d'une bourse, ça c'est juste?
Oui, pour développer un spectacle. Ouais.
Voilà. Et vous pourrez donc répondre comme Gilles Anquetil aux questions peut-être qui concerneront Watermill. Vous avez joué très jeune dans Une femme douce en 94 à la MC 93 de Bobigny, puis en tournée européenne, dans le film La mort de Molière la même année, on en verra un extrait là aussi demain, puis dans un certain nombre de performances qui ont été créées ou reprises au Watermill Center et dans les Fables de La Fontaine, à la Comédie Française et au Lincoln Center à New York. Vous êtes aussi actuellement, et j'aimerais bien qu'on en parle aussi, assistant, mise en scène sur la dernière bande dont parlait Frédéric Morin ce matin, de Beckett, que Wilson joue en solo. Et on verra comment ce solo est aussi une pratique du double. Le spectacle a été créé au Festival de Spoleto et est actuellement en tournée. Et aujourd'hui, vous mettez en scène vos propres spectacles en collaboration avec un artiste plasticien américain, lui aussi très influencé par Robert Wilson, Carlos Soto. Vous avez développé Everything All Right au Watermill Center, joué une de vos performances à Hambourg, créé le spectacle Girl Machine à la Biennale Performa de New York. Et vous allez le reprendre?
Oui.
22-23 mai, c'est où?
À Door Studio à Bastille, programmé par The Arts Arena.
Voilà. Et en juillet, vous participerez à la Biennale des jeunes artistes à Moscou avec la performance Pig 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 au Musée d'Art Moderne. Ça fait déjà une assez belle carrière. Alors, j'ai envie de vous demander, ça va peut-être résumer tout ce qu'on a dit depuis le début de l'après-midi, quels sont les supports de jeu de l'acteur qui travaille avec Wilson à partir du moment où il se débarrasse de toute psychologisation, de la notion de personnage. Qu'est-ce qu'il reste finalement à l'acteur?
Il reste l'intérieur, en fait. À partir du moment où Wilson décide de travailler tout ce qu'il y a à l'extérieur, la lumière, les décors, les mouvements, tout est millimétré. La plupart du temps, par exception, en fait, ce qui reste, c'est comment chaque acteur peut nourrir son, ce que Wilson n'appellera pas un rôle, mais sa présence sur scène, son cheminement dans un espace et un temps donné sur un plateau pendant donc la durée d'un spectacle. Donc c'est aussi un travail de chaque, c'est le travail de chaque acteur, en fait que Wilson sent avant, en fait quand il fait une audition, ce qu'il veut sentir, c'est ce que chacun peut apporter ensuite à l'œuvre, pas forcément comment il exécutera exactement parfaitement un mouvement en 3 minutes. Avec un tempo exact ou quoi. Par exemple, pour les Fables de La Fontaine, le premier jour de sorte de pré-répétition avant le workshop, il a demandé d'abord à toutes les femmes puis à tous les hommes qui étaient présélectionnés d'avancer, comme il le fait souvent, 1,50 m en 3 minutes, ça varie, etc. Et en fait, la consigne a bien sûr été plus ou moins respectée. Et par exemple, Christine Fersen, à ce moment-là, est juste, n'avait rien compris. Elle est juste restée en place. Elle n'a pas bougé. Elle est restée comme elle était, monolithique, très forte, très puissante. Et c'est quelque chose qui a, par exemple, qui avait, sur le moment, beaucoup ému Babulson. Donc c'est pas, quand on parle toujours d'acteurs très techniques, d'arriver à obéir le mieux possible à Bob Wilson, il y a aussi une énorme part intérieure et que Bob chérit beaucoup et qui est souvent lié aussi à de l'imperfection. Mais que ça soit chez des amateurs ou des très grands professionnels, c'est pas découpé.
On va pas non plus épiloguer là-dessus. J'ai improvisé ça, donc il faut rien improviser chez Wilson. Donc on fait une fixation autour de cette distinction un peu rapide. Mais je crois quand même que par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que un œil expert, je me considère expert comme spectateur, distingue très bien la charge supplémentaire d'un grand professionnel. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ni les Allemands et les Suédois viennent perturber le programme wilsonien. C'est-à-dire que quand on les voit, on découvre que ce sont des acteurs légèrement insoumis et en même temps soumis. Tandis qu'il y a d'autres spectacles de Wilson qu'on a vus où l'acteur accomplit de manière extrêmement précise le programme wilsonien. Et moi, quand j'ai vu le songe de Strindberg avec les acteurs wilsoniens, j'avais le sentiment qu'il y avait une sorte de tension entre le projet wilsonien qui était extrêmement clair et net, comme d'habitude d'ailleurs, et que ces acteurs... En raison de leur force, en raison de leur présence, et malgré leur volonté de se soumettre, apporter quelque chose d'inédit. Je crois aussi qu'il ne faut pas non plus croire tout ce que dit Bob. C'est-à-dire que chacun apporte ce qu'il a. Bizarrement, il y a un vocabulaire très précis. Et que justement, je pense que l'acteur n'est pas quand même un chorégraphe, n'est pas un danseur. C'est-à-dire que la comparaison avec l'acte de cinéma est juste. Mais l'acteur, quand on voit un acteur, on ne peut pas accepter l'idée qu'il reprend exactement un certain type de kata, où il est pareil à un danseur classique. Et je crois que, personnellement, dans ce que tu disais, c'est très très beau, c'est qu'au fond, il y a des projets ou un projet wilsonien très net, mais que ce projet wilsonien est très souvent détourné, perturbé légèrement par des acteurs. Et moi, ce que j'aime, c'est cette perturbation.
Sur cette question de la résistance de l'acteur, Charles, est-ce qu'il y a eu des... Par exemple, on attendait beaucoup Wilson au tournant quand il est arrivé à la Comédie française. En se disant, les acteurs de la Comédie française, on les connaît, ils vont commencer à être en résistance. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la même sorte de résistance,
ils ont été trop séduits.
Alors, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à la Comédie française? Et ma question, la suivante est celle-ci. Est-ce que, alors, les acteurs peuvent s'adapter au travail de Robert Wilson, mais vous m'avez dit une chose qui m'a paru très intéressante dans l'entretien qu'on a eu préparatoire, c'est que finalement lui aussi s'adapte à l'institution dans laquelle il arrive. Il ne dirige pas de la même manière le Berliner Ensemble, la Comédie française. Est-ce que vous pourriez...
Bien sûr, et d'ailleurs dans tous les pays où il se retrouve à diriger, il s'inspire toujours de la culture, de la mémoire, de ce qui aussi fait le patrimoine théâtral, même très très classique, dont on n'imaginerait pas qu'il s'inspirerait. Et à la Comédie française, en fait, oui, il voulait monter quelque chose qui épouse un petit peu la troupe, quelque chose avec une structure assez classique. Voilà, donc les fables, ça s'est retrouvé être les fables. Et les acteurs, en fait, ont été aussi non seulement très coopérants, mais en plus, on essayait d'atteindre une sorte de perfection wilsonienne, entre guillemets, voilà, de coller à l'univers de Bob.
Et là, ça marche plus ou moins bien.
Oui. Après, c'est une question de point de vue.
Il y a un autre exemple aussi. Il y a un autre exemple qui est très intéressant. C'est quand Bob Wilson a monté le Martyr du Saint-Sébastien avec l'Opéra de Paris. Et là aussi, parce que c'était donc à Bobigny, il a créé. Et moi, j'en ai parlé avec Sylvie Guilaine, qui a adoré son expérience avec Babouzane. Alors que carrément, il l'empêchait de danser. Elle a eu un rôle très statique, il lui a mis un carcan. Et pour elle, c'est une des plus belles expériences qu'elle a eues de danseuse. Alors donc, elle n'a pas résisté, c'est vrai qu'elle est tombée sous le charme, mais c'est vrai qu'en la limitant, elle n'a pas fait de bon. Je ne sais pas si tu t'en souviens du spectacle.
Oui, tout à fait, je l'ai vu à Bobigny. Mais je trouve que ça, c'est intéressant, c'est la lutte avec le cadre. Quand il y a des acteurs trop soumis qui acceptent le cadre, à ce moment-là, je trouve que c'est. On voit trop, de manière trop explicite, le projet. Et que ce dont j'ai parlé, cette part d'ombre, cette part de secret, vient du fait quand. Elle surgit au moment où il y a une lutte avec le cadre, où le cadre n'est pas trop autoritaire, mais sans qu'il soit brisé. Parce que si le cadre est brisé, c'est pas intéressant, on va avoir notre spectacle.
Ah ben, il faut un cadre avec Bob. S'il n'y a pas de cadre, il n'y a plus de spectacle.
Est-ce que ça s'exporte facilement, ce qu'on apprend avec Wilson? Déjà, est-ce que c'est un bon pédagogue? Est-ce qu'on peut dire que Robert Wilson à Watermill fait de la pédagogie? Ou est-ce que c'est un laboratoire de recherche pour ses propres spectacles? Ce qui n'est pas incompatible, mais...
C'est vrai que c'est axé vraiment sur ses propres spectacles et sur ce qu'il y a autour. Donc des artistes avec qui il travaille, qui eux aussi dirigent des ateliers et qui véhiculent une certaine vision. Maintenant, depuis 3-4 ans, ça s'ouvre un petit peu et il invite des gens qui n'ont rien à voir avec son univers, comme Jonathan Mazeux. Il y a 3 ans, ou des performeurs qui n'ont vraiment rien à voir, comme les Shakespeare's Wild Sisters. Voilà. Ensuite, lui, en tant que pédagogue, avant tout, au Watermill, en fait, il dispense une sorte de bonne parole. En fait, il donne un peu des préceptes le matin, en fait, à 10 heures précises, tous les matins. Tout le monde est réuni dans une salle principale et il parle, il raconte soit des anecdotes plus ou moins farfelues, plus ou moins vraies. Il parle un petit peu de son travail. D'autres gens sont invités à intervenir, à, par exemple jouer avec lui. Ça m'est arrivé, Chris Knowles, par exemple, de faire d'un coup un duo, des choses comme ça, pour un peu aussi parler même en pratique de son travail. Voilà. Donc, mais après, il ne va pas se mettre en tête d'apprendre à chacun son métier ou voilà.
Est-ce qu'il vous a appris quelque chose, vous, en tant qu'acteur? Parce qu'en tant qu'acteur, vous avez joué avec d'autres metteurs en scène, votre père, mais Claude Alice Perrot, Joachim Serrault, Mac Blesinger, avec des performeurs, Fedor Pavlov, avec la chorégraphe Stéphanie Auberville. Est-ce que quelque chose de ce que vous avez, puisque vraiment vous étiez très jeune quand vous avez commencé à travailler avec lui, de ce que vous avez appris de ce geste esthétique-là, peut s'exporter dans d'autres univers?
Parce que ça touche à des choses absolument essentielles de l'être quand même. Je veux dire de quand on dit jouer, qu'il dit jouer pour lui, ça s'entend. Enfin, jouer pour soi-même, c'est pas uniquement ça. C'est aussi jouer avec soi-même, en fait. Et à partir du moment où on se ressent en tant qu'être sur un plateau, où on a une existence propre sur un plateau et on a conscience de ça, à ce moment-là, on peut commencer à ressentir et à sentir d'autres présences, d'autres paroles, etc.
Sans dialoguer et sans échanger, comme disait Marie-Yvonne Saison tout à l'heure.
Pas forcément, ou aussi, bien sûr, en dialoguant et en échangeant, mais pas forcément. Ça ne passe pas forcément par là, du tout.
Je crois que il y a un très bel article qu'a écrit Gilles sur Watermill, et ensuite moi j'ai une étudiante danoise qui est allée à Watermill. Je pense aussi que la pédagogie, c'est une sorte de pédagogie implicite, c'est pas la pédagogie explicite. C'est qu'au fond, Watermill, c'est une sorte d'académie à la Renaissance où ce qui compte, c'est de voir l'artiste au travail. Et que chacun, et l'exigence pédagogique vient du fait que c'est chacun doit tirer l'enseignement qui lui convient à partir de l'intimité avec l'artiste. C'est ce que tu dis dans ce bel article que j'avais lu il y a longtemps, dans le Nouvel Obstrelon d'ailleurs, expliquer cette atmosphère où la pédagogie n'est pas dirigiste et n'est pas explicite.
Oui, mais en même temps, s'il y a une pédagogie, c'est la pédagogie du wilsonisme quand même. C'est quand même. Il est à la fois le roi soleil, Lully et le nôtre. Donc il joue toutes les partitions parce qu'il est fois architecte, il s'occupe du, il gère le jardin, sa collection de chaises, de là, et puis les gens attendent. Les gens arrivent, il y a quelques années, donc ça peut être pour un projet. Là, je me souviens, la première fois, c'était des gens qui travaillaient dans un musée sur la mémoire juive à Tel Aviv et qui devait y avoir une aile qui allait être créée. Ils avaient demandé à Bob d'en faire la scénographie. Les pauvres, ils ont attendu 3 jours, comme ça. Pour les occuper, on leur a fait faire la cuisine. Et puis, ils devaient partir le lendemain. Et puis, à 3 heures du matin, avant qu'ils ne partent, le roi soleil accordait une audience. Il dit, c'est quel projet? Ah oui, c'est le musée à Tel Aviv. La mémoire juive. Là, il réfléchit. Là, c'est comme on l'a vu ce matin. Il commence à faire des dessins, comme ça. Là, je vois un lapin. Tout ça. Puis il fait, alors, le bestiaire, tout ça. Alors, il dit, comme les autres, un lapin dans un musée de la mémoire juive, tout ça. Et puis après, il est parti. Et puis, le projet. Là, puis après, c'est au suivant. Voilà, c'est assez fascinant comment ça fonctionne. Et alors, tous les spectacles de l'époque étaient les opéras, tout ça, tout ce qui pouvait monter, se passait pendant ces 2 mois à Waterville. Et peut-être la chose la plus aussi, le pouvoir aussi, la puissance de travail, parce que Bob Wilson est un, comme on dit en anglais, un work addict, il ne peut pas s'arrêter. Et dès que le soir d'une première, hop, le lendemain, il prend l'avion pour un autre spectacle dont il y aura la première dans un mois, le mois suivant. Et là, donc, c'était au début de Watermill et j'étais là pendant quelques jours. C'était au début septembre, et Watermill allait fermer parce que l'hiver, on pouvait pas le chauffer. Tout ça, donc, il a demandé à un photographe de venir pour illustrer mon article. Et 2 jours avant, pour bien comprendre comment il fonctionne, 2 jours avant que le photographe n'arrive, il a mobilisé tout le monde, jour et nuit, pour redécorer jardin, toutes les pièces. Une par une, au millimètre près, remettre les choses, même dans les toilettes. Il y avait des pauvres Français là qui avaient un projet, qui faisaient des maquettes. Ça ne leur plaît pas, pof, il leur a tout cassé un travail d'un mois pour mettre un pot de fleurs, bouger une par une toutes les pièces de ses collections, faire venir par camion des plantes, alors que ça allait être fermé, et planter tout un parterre extraordinaire de plantes. Il avait des très belles stèles qu'il avait achetées en Malaisie, les installer, enfin un travail de fou, faire monter des coffres avec des balinets avec dedans des tissus, tout ça, un travail de fou extraordinaire. C'était comme si c'était pour la première d'un spectacle. Et d'un spectacle, une première qui n'a jamais eu lieu, puisque les pauvres plantes qui avaient été plantées, qui étaient très belles, qui n'avaient pas été arrosées 3 jours plus tard et qui allaient mourir. Mais c'était ça, cette énergie pour la beauté du geste, juste pour qu'il y ait beaucoup de pièces on a passé des nuits à replacer, tout ça, toutes ces collections à l'installer n'ont même pas été photographiées. Mais il y a en même temps, dans l'effort, une sorte de gratuité, de beauté dans cette énergie comme ça, qui est typique de Bob Wilson. Non, ça marche pas à tous les coups. Hein, il y a des pièces comme ça où l'énergie tourne un peu à vide. Mais voilà, c'était la première pour aucun spectateur.
Mais on peut rajouter aussi que on présente aussi l'image de Wilson, ce qui est vrai à 90% d'un conquérant. Mais quand il y a des projets qui ne marchent pas, il est profondément blessé. Il vit comme un traumatisme. On connaît l'histoire de Civil Wars, mais moi j'étais au courant, on m'avait parlé une fois d'un très grand projet en Indonésie, où il devait faire un grand projet sur l'art asiatique, qui ne s'est pas fait, et quand je lui ai parlé, il était, comment dire, profondément.
Pour les Jeux Olympiques aussi.
Pardon.
Pour les Jeux Olympiques de.
Voilà. Mais ça, j'ai dit le Civil War. Ça, c'était le cas exemple, le cas exemplaire. Mais ce musée en Indonésie, vu le nombre de musées qu'il fait, donc je pensais que c'était une petite histoire. Je dis, mais écoute, tu l'as fait ou tu l'as pas fait. Il s'est mis à m'expliquer comment il voulait le faire, et finalement, on peut me dire, il n'a pas été fait. Donc c'était pas un artiste qui considérait que le projet était vite pensé, vite oublié. Donc je crois qu'il y a une part d'investissement beaucoup plus importante qui le dit dans des projets. Parce qu'autrement, la non-réalisation d'un projet n'aurait pas de telles conséquences comme ça. Et on le sait à quel point il a été déstabilisé par Civil Wars.
Le Beckett, ça se passe comment? Le Beckett, dernière bande.
Alors la dernière bande...
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi du processus,
sur le processus
de travail
avez
mis en place?
Alors, en fait, comme beaucoup de projets, on a commencé à le développer à New York au Watermill, donc au Watermill Center. En fait, c'est une chose qui arrive quand même régulièrement de aussi déléguer au début et de demander aussi, en fait, une sorte d'improvisation qui ne serait pas l'improvisation telle qu'on la conçoit en France, mais de confier à des collaborateurs, donc de commencer à réfléchir à un projet, à commencer à mettre ensemble des éléments, des idées d'eux-mêmes de mise en scène, de jeu, de décor, etc. Donc c'est ce que j'ai fait avec Hélène Hammer, une dramaturge allemande. Et on a commencé à développer, on a en fait en 4 jours à faire une sorte de maquette à deux de la dernière bande de Beckett. Donc où je jouais le rôle de Crap, donc que Bob interprète dans la version finale. Et on lui a montré en fait un soir au Watermill, alors que tout le monde dînait. Et que donc on entendait les bruits et les lumières du grand dîner à 70 personnes et on était juste 3 personnes là en train de faire Beckett presque sans lumière, sans rien. Voilà. Et en fait à partir de là, Wilson y a réfléchi, s'est dit que ça devait peut-être être plus que juste une lecture parce qu'il l'avait en fait à la base prévu comme une lecture au Grand Théâtre du Luxembourg. Et c'est devenu un spectacle, en fait. Et en fait, tout le spectacle, après, à partir de là, a commencé à véritablement se créer, avec moi en jeu, à sa place, en fait. Il l'a créé. En fait, lui, il n'est pas monté sur le plateau tant que le spectacle n'était pas 100% créé, avec moi dedans, qui n'est absolument pas à l'âge du rôle, d'ailleurs. Voilà. Et en fait, tout le travail, c'est créé avec pas aucune focalisation réaliste sur le fait que je sois le personnage ou le rôle, mais plus comme une sorte de mémoire de lui, un double, quelqu'un, en fait, sur qui il s'appuyait et voyait comment il réagissait en tant qu'acteur pour lui faire autre chose et se projeter et s'imaginer lui-même. Voilà. Donc, lui, il est monté après sur le plateau, une fois que tout était créé, en fait. Et là, à partir de là, les rôles se sont inversés et je lui ai retransmis aussi, c'est quelque chose qui l'intéressait et c'est aussi le processus qu'il avait eu sur Hamlet, qu'en fait, l'acteur qui crée pour lui le rôle, en fait, après, lui retransmette et lui redonne aussi ses sensations de jeu et ses sensations de l'intérieur. Voilà. Donc après, on a travaillé là-dessus pendant un moment. Et donc maintenant, ça se joue en tournée. Le truc, c'est que c'était finalement assez différent par rapport à beaucoup de spectacles qu'il crée, parce qu'il ne respecte pas lui-même tout ce qu'il donne comme précepte et tout ce qu'il réclame à des acteurs. Il est d'ailleurs fasciné, alors que par un certain type de jeu, par exemple de grands acteurs anglais qui, par ailleurs, quand il les voit jouer, il déteste, mais quand lui il se met à le faire, pense que tout d'un coup, là d'un coup, c'est génial, que l'heure d'avant il détestait. Voilà. D'ailleurs, un peu, permet... d'ailleurs, dans Hamlet, voilà, là, voilà. D'ailleurs, on voit les passages d'Hamlet, là, c'était la tournée quand il avait joué, donc j'imagine, comme il l'a joué, c'est la tournée, ça a duré 4 ans, donc 5 ans après la création, c'est les sous-titres en italien, donc c'était produit par Change Performing Arts, donc ça veut dire que c'était quand même quelques années après la création, et on voit que il est, et aussi au fur et à mesure, il s'installe aussi dans le spectacle et il commence à en faire beaucoup plus, quelque chose qu'il ne permet pas souvent aux acteurs. Voilà.
Une dernière question. Quand vous entendez les années 70 racontées par Marie-Yvonne Saison, par exemple, ou par Gilles Anquetil, qu'est-ce que vous vous dites, vous, aujourd'hui ?
Déjà, c'est pas la première fois que je les entends. J'entends beaucoup d'anecdotes de la part de Wilson lui-même. Et puis par beaucoup de collaborateurs, notamment mon père. Voilà. Donc c'est une période que finalement je connais un petit peu, presque comme si je l'avais vécu, mais si je ne l'ai pas, donc pas vécu, je n'étais pas né. Et en fait, il y a toute une partie sensible et fragile qu'on peut retrouver épisodiquement sur certains spectacles qui même s'ils se sont quand même stéréotypés, ils sont rentrés plus dans des cadres et dans des moules et dans des formes vraiment établies où il refait exactement les mêmes gestes. Cette période de développement où il développait, par exemple, des sortes de boucles avec des relations à deux, à trois, des choses qui reviennent. Forcément, oui, ça fait un petit peu envie et ça apparaît comme une matière très vivante à l'époque et comme donc forcément, oui, ça fait c'est envie.
Mais à propos de, excuse-moi. À propos de Hamlet, je me souviens de quelque chose, c'était la première fois qu'il a créé à Houston, je crois, puis après, la première, c'était à Venise, au Théâtre Goldoni, en Europe, et c'était un spectacle auquel Bob tient beaucoup, parce qu'en plus, il est assez autobiographique par rapport à sa mère, tout ça, c'est quelque chose de très personnel. Pour lui, vraiment, et en plus, il était seul, et donc après le spectacle, il était épuisé, on est allé dîner ensemble, et puis il y a un journaliste qui était très inquiet pour savoir s'il avait bien joué, tout ça, il fallait toujours le rassurer. Et il y a un journaliste italien qui vient à notre table, qui lui dit « Oh, monsieur Bob Wilson, c'est formidable, depuis le Hamlet de Carmelo Bene, je n'ai pas vu un Hamlet aussi moderne. » Et il le regarde, il le fusille du regard, et dit « I'm not modern !» Et il a foutu la porte.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? À vous la parole.
K.O. par la barre.
Depuis ce matin, ils sont allés. Depuis ce matin, oui, c'est ça.
Et la dernière bande est prévue pour la France ou ? Pas tellement.
Oui, elle essaye de venir en France, la dernière bande, et elle se passera peut-être à la rentrée en novembre.
Où
voilà,
ça
à Paris.
On ne sait pas.
Pour le moment, le théâtre, ce n'est pas décidé à 100%. Mais ça va venir.
Il va y avoir une reprise d'Angel and the Beast.
Il y a Beckett aussi qui l'a monté.
Et il y aura aussi à l'Athénée, ça c'est signé à l'Athénée, il y a le Beckett qui l'a monté en parallèle. Parce que d'ailleurs,
en fait,
il a eu l'idée de la dernière bande parce qu'il montait au Les Beaux Jours, qui d'ailleurs, il n'avait jamais monté. Beckett, et aussi parce que l'univers lui faisait un petit peu peur, et parce qu'il est très finalement assez proche du sien, et donc là d'un coup il s'est confronté aux deux Beckett.
Alors il y a une question dans la salle.
Non, c'est pas une question, c'est que je voulais juste.
C'est le père qui parle.
Voilà, c'est le père qui parle, mais je voulais juste. Comme j'ai travaillé pour le martyr de Saint-Sébastien, travaillé dessus d'ailleurs, c'était la première fois qu'on s'est rencontrés, je voulais dire que Sylvie Guilhem n'était pas du tout dans un carcan et qu'elle a travaillé dans, ouais. Peut-être, non attends s'il te plaît, dans une autre forme à laquelle elle était habituée, bien qu'elle travaillait en parallèle avec William Forsythe en Allemagne, et qu'elle a dû, d'ailleurs Bob l'a fait... l'a forcé à arrêter le spectacle de Forsyth pour faire le martyr et faire toutes les dates. Et par exemple, quand on se souvient de la danse du bûcher où elle dansait, elle faisait des bonds gigantesques, Bob était très impressionné par ses qualités acrobatiques, puisqu'elle avait étudié aussi la gymnastique très jeune. Donc elle faisait des choses. Alors quand Gilles Anquetil a parlé tout à l'heure de carcan, ça me fait bizarre, parce que c'est vrai que c'était une autre manière d'aborder la danse et la chorégraphie par rapport aux critères et au vocabulaire de la danse classique à l'Opéra de Paris. Il n'y avait pas de tutu ni de ballerine, mais je crois qu'elle avait des ballerines à certains moments, mais elle faisait des choses, et Patrick Dupont aussi. Il a pu travailler en même temps, justement, dans sa direction, tout en prenant quelque chose de leur facilité, de leur incroyable précision aussi, qui était assez spectaculaire. Il y a eu un lien comme ça qui s'est développé. Donc elle n'était pas. Et si elle ensuite, c'est vrai qu'elle a dit que c'était une des plus grandes expériences de travail et de chorégraphie avec quelqu'un. C'est parce que aussi quelque part, il lui laissait une certaine latitude. Elle avait une certaine liberté.
Voilà. Oui, je me suis mal exprimé. Pour elle, c'était pas du tout une expérience négative. Au contraire, elle en parlait avec une sorte d'émotion, de reconnaissance. Ça l'a extrêmement nourri, vraiment. Mais comme les carcans, c'était pas bien sûr les mêmes règles que ce qui se passait sur la scène de l'Opéra de Paris.
Une question là-bas.
Bonsoir, s'il vous plaît. Seulement quelques mots sur K. Mountain, spectacle en Iran en 72, s'il vous plaît, si vous pouvez dire quelque chose.
Pardon ?
Vous pouvez dire quelque chose sur le spectacle.
Voilà. La première image de Bob Wilson et K. Mountain, c'est d'abord, c'est intéressant parce qu'on parle de Bob et la politique, c'est que, donc il avait été, K. Mountain, c'est le spectacle à Shiraz devait durer 7 jours et 7 nuits sur une montagne. Et qui était une prolongation du regard du sourd. Hein. C'était pas un spectacle complètement inédit. Mais Bob était parti donc avant d'arriver en Iran pour se reposer avec Andy de Groot en Grèce. Et à ce moment-là, à l'aéroport, il s'est fait prendre avec du hashish en prison. Et donc c'était très emmerdant pour que le spectacle puisse se faire. Et 15 jours avant, grâce à l'intervention de la Chabanou, tout ça, il a pu être libéré sous caution. Et ensuite, il arrive et on commence à répéter. Et la première conférence de presse, c'était l'époque où il y avait un jeune étudiant qui était dans les prisons du Shah et qui a été exécuté. Et la troupe s'était un petit peu émue au départ. Tout ça. Et la première image que j'ai de Bob, c'était... Moi, je n'avais pas vu le regard du sourd à Paris. C'était donc la conférence de presse. Il s'était mis un bandeau, comme ça. On lui posait des questions. Et à chaque question, il hurlait. Ça durait pendant une demi-heure. Vous savez, il a tenu comme ça, comme si c'était l'interrogatoire d'un prisonnier politique. Quoi. Et c'était étrange de la part de Bob, qui ne fait jamais de déclaration politique. Mais là, c'était une déclaration silencieuse, ce cri et les yeux bandés. Voilà, c'est la première image que j'ai de lui. Et Kay Mountain, bon, voilà, c'est un spectacle complètement fou. C'est-à-dire, bon... Parce que, d'abord, la première partie était dans un caravansérail, c'était absolument magnifique, éclairé, c'était une sorte de cérémonie très étrange, très belle, dans un lieu magnifique. Et puis, tous les comédiens, les danseurs, les musiciens de la Bird of Man avaient été tombés amoureux de l'Iran. Donc, il y avait aussi, il y avait les couleurs, il y a cette montagne. Tout ça. Et puis, chaque jour, il y avait une station différente. Et c'est vrai que c'était une expérience. Alors, évidemment, au début, il y avait un peu de monde. Puis après, à 6 heures du matin, il y avait mon épouse, ma belle-sœur qui est là, quelques amis, et voilà. Et puis on était à 5, et c'est comme ça qu'après on a été embarqués dans l'aventure, parce que à la fin, quand c'était fini, elle dit qu'est-ce que vous faites ? Ben on va à Paris, ben venez au beau workshop. C'est comme ça qu'on est rentré dedans. Quoi. Mais c'était tout à fait extraordinaire. Il organisait des processions. Alors bien sûr, c'est pas 7 jours et 7 nuits en permanence, parce que au mois de juillet, à 2 heures de l'après-midi, faire une procession sur une colline de Shiraz, c'était un petit peu rude. Mais il y avait toujours des événements.
C'est-à-dire que ça continuait toujours, toujours, toujours. Et le soir, on revenait sur la scène principale et on remontait. Là, voilà. Non, c'était fascinant, quoi. Voilà, mais il y a très, très peu de traces. Hein. Ouais. Quelques photos, oui. Oui.
Et ça entretient la légende.
C'est oui, bien sûr. Et puis après, le spectacle, c'était 24 heures, toi. Puisque ça s'est passé en août, juillet, et ouverture, c'est en novembre, pour ça.
Je n'ai jamais pu trouver, quand je faisais mes propres recherches, c'était deux choses. D'abord, le nombre de performers qui étaient impliqués dans Cow Mountain. Et la deuxième chose à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse, peut-être que vous pourriez enfin me donner cette réponse, le nombre de spectateurs, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une foule au début et puis qui suivait la procession et puis petit à petit
c'était
disparaissait
vraiment entre nous.
Est-ce qu'il y avait deux ou trois au départ? Enfin,
je veux pas avouer, la légende, c'était vraiment entre nous. Parce que non, le premier jour, il y avait un peu de monde parce qu'il y avait des gradins comme ça.
Ouais.
Et puis après de moins en moins. 7 jours, c'est long quand même, vous savez.
Ouais.
Et donc en même temps, s'il y avait ceux qui avaient été fascinés, hypnotisés par ça, parce qu'il faut s'imaginer. Imaginez, c'est le regard du sourd dans le décor des montagnes de Shiraz et tout ça. Bon, c'était quand même avec la même équipe, avec d'autres choses, tout ça. Bon. Et c'est vrai que c'était... donc voilà, ouais. Non, en fin de compte, ça a été quasiment un spectacle privé. Hein.
Oui, c'est ce que j'ai pensé, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Et le nombre de performers, de performers?
Il y a combien de... Je sais pas.
Une trentaine, quarantaine?
Un peu moins, oui, une vingtaine.
Oui.
Mais là aussi, très cosmopolite.
Hein. Oui.
Il y avait des Hongrois, des Argentins.
Parce que aussi, mais à part le fait qu'il n'y a pas de photos, il y a très, très peu d'articles. Presque rien qui n'a été écrit sur Camargue.
Non, je me souviens, la seule personne qui avait comme critique, il y avait Jacques Longchamp, qui était le critique de musique du Monde.
Ouais. Il y avait Dumur, non? Il était pas...
Non.
Il était parti bientôt. Parce qu'il était à Dumur, Dumur était à Shiraz.
Oui, mais il n'était pas là.
Ouais.
Trop difficile.
Cher.
Est-ce qu'il y a eu des échos politiques à l'époque? Enfin, c'est encore l'époque du chat.
Ah oui, bien sûr. Il a été soutenu et d'ailleurs libéré par intervention de la Chabanou auprès des autorités grecques. C'était donc 72. C'était donc un an après les fêtes de Persépolis. Il y avait déjà un peu de tension. Shiraz avait un statut un peu particulier. Le Magic Circus avait fait des grosses bêtises là-bas, l'année précédente, en faisant des défilés avec filles au sein nu dans Shiraz, qui n'était pas très, 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 très habile. D'ailleurs, on s'en est beaucoup servi contre le chat au moment de la Révolution. Donc, il y avait déjà une petite tension, quoi. Ou alors, je me souviens, il y avait un spectacle de Stockhausen, là, très beau. Parce qu'aussi, il y avait ce qui se passait ici, à Persépolis.
Comme il y avait aussi
Cervone,
le spectacle.
Cervone a fait des très beaux spectacles aussi.
Il y avait aussi le spectacle de Peter Brook,
Stockhausen.
Ouais.
Et même Stockhausen l'avait fait dans le caravansérail qui est à l'intérieur du bazar de Shiraz. Et comme il n'y avait pas assez de monde, la police mettait du chat, prenait de force les bazaris pour remplir la salle de spectacle. Donc, quelquefois, il y avait quand même des choses politiques, un climat politique quand même. Oui,
absolument. Et qui avait déjà provoqué à l'époque beaucoup de débats.
Oui, bien sûr.
Parce que les gens. Enfin, je sais que Peter Brook a été accusé d'être complice.
Oui, bien sûr.
Je vous propose qu'on retrouve tout le monde demain pour continuer ces discussions qui risquent d'être longues. Donc demain, l'heure, on redémarre 11h15. À 11h15. Donc c'est Philippe Charrier qui commencera la matinée et c'est Helga Finter qu'on entendra. Et ensuite, on parlera opéra, entre autres, et vidéo.
Bonne soirée.
Ouais, de trois séries.